Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler spécifiquement du networking ou le réseautage d'affaires. On va commencer par une phrase que répétait souvent mon grand-père, il disait « fréquente toujours celui qui est mieux que toi ». Il a fallu quand même quelques années, peut-être quelques décennies à beaucoup d'entre nous pour comprendre ces phrases laissées par nos grands-parents. En effet, cette phrase, avec le temps, je l'ai comprise. En faisant des recherches, en fait, je me suis rendu compte que les gens qui avançaient dans leur vie donc avaient tous deux points communs. On met de côté les compétences et le niveau d'études. On oublie ça. Et on se rend compte que toutes les personnes qui, en fait, ont souvent le moral, celles qui perdent rarement espoir, celles qui gardent le cap, celles qui s'accrochent, celles qui ne perdent pas beaucoup de temps, celles qui savent gagner du temps, les personnes qui gagnent souvent du temps dans leur recherche et qui savent même pas chercher, mais qui finalement trouvent ce qu'elles ont besoin, ont deux points communs en fait. Elles ont un mentor ou plusieurs et elles ont un réseau de contacts. Donc le réseau de contacts, c'est ce qu'on appelle ici le networking, le réseautage. C'est apprendre à faire des contacts, apprendre à développer son réseau de contacts, de connaissances et certains qui deviennent des amis. Donc quand on tient compte que si tu as une seule compétence ou que tu as un métier en main, quand tu veux des informations ou des solutions ou que tu cherches des contacts et que tu ne sais pas où trouver, ben, en fait le meilleur moyen efficace, rentable et productif de trouver tes réponses sans perdre de temps, c'est le réseau. Imagine que tu es assis à table avec 5 personnes et que ces 5 personnes, tu leur dis, voilà, moi je cherche un fournisseur d'un produit X. Voilà. Le fait de leur dire à ces 5 personnes, tu leur dis, voilà, s'il vous plaît, cherchez dans vos contacts et je vous rappelle tous d'ici 3-4 jours pour voir si vous avez trouvé. Bah, 5 personnes qui vont se mettre à faire ces recherches-là, consciemment, inconsciemment, au bout de 5 jours, tu les rappelles les 5, ta recherche est partie, a fait le tour peut-être d'une centaine de personnes. Et ça, même pas en 5 jours, alors que tu as pris 30 secondes pour faire part de ta demande. Donc, quand tu lances ta demande dans le réseau, cette demande, elle tourne. Et ce qui est magique, c'est qu'en même temps, toi, tu peux continuer à faire ce que tu as à faire. Tu peux continuer à te concentrer sur ton travail ou sur ton projet ou sur ce que tu as à faire. Donc, normalement, si tu n'avais pas de réseau, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu arrêtes tes activités, tu vas prendre 2-3 heures ou une heure tous les jours, tu vas te mettre à chercher, tu vas essayer de prendre des contacts, tu vas ouvrir les pages d'or, tu vas envoyer des mails à droite à gauche. Donc, tu vas commencer un petit peu à faire tes propres recherches, mais ça te prend ton temps. Le fait de l'envoyer à ton réseau et de demander, parfois ça peut être un message que tu transfères à une dizaine de personnes, ben te fait gagner du temps. Les avantages, c'est que tu continues à travailler, tu restes concentré sur ton business, tu avances, tu n'es pas déconcentré sur ce que tu dois faire, tu restes concentré sur ce qu'il y a de plus important à faire et pas la recherche. Ta demande, elle est partie peut-être auprès de, comme j'avais dit, 100 ou 200 personnes en moins d'une semaine. Et parfois, ben, au bout d'une semaine, voilà, tu récupères 2-3 contacts de confiance qui ont déjà été testés par tes propres contacts. Et si ce n'est pas le cas, on t'envoie de la part de quelqu'un et donc il y a toujours une petite sécurité. Donc, tu contactes de la part d'une ou deux personnes. Là, il y a une chaîne de confiance qui s'installe et qui crée le lien. Et au mieux, ça c'est dans le meilleur des cas, ton contact à toi vient avec toi au premier rendez-vous pour faire la passation de la confiance. Tu dis voilà, je te laisse entre de bonnes mains, c'est un ami de la famille, on lui a rendu un service, XY, et donc voilà, il fait un petit peu l'introduction. Et là, donc la personne que toi tu as trouvée en fait, donc ce que j'avais dit ici c'était un fournisseur, pardon. Donc le fournisseur il est super content lui aussi parce qu'il y a un client qui vient jusque chez lui, donc c'est du pain béni. Donc lui qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est qu'il va aussi, il ne va vouloir que fidéliser des gens comme toi qui sont arrivés jusqu'à sa porte. Donc il n'a qu'un seul intérêt, bah, c'est de prendre soin de toi et de faire de toi un client satisfait puisqu'il a gagné lui aussi tout ce temps de prospection. Donc tous les deux sont gagnants via le réseautage. Celui qui cherche et celui qui cherche un besoin et celui qui offre un service. Donc ici tout le monde est gagnant et le lien de confiance relie ces deux personnes grâce aux 4, 5, 6 parfois 10 personnes qu'il peut y avoir entre les deux. Cette pratique, je l'ai découverte, je l'ai partagée avec pas mal de gens de mon réseau, et beaucoup de gens, tous ceux qui ont pu avancer, ont avancé grâce à ça. Parce que quand on est occupé sur une chose, on peut pas faire d'autre à côté. Donc quand on a des recherches, ben, le meilleur moyen, c'est de faire envoyer cette demande à son entourage, de déléguer en fait. Donc ça apporte quoi en fait? Un réseau et un mentor, les deux. C'est la même chose, ça apporte des informations et des contacts sans perdre de temps, ça permet de garder confiance en soi et d'augmenter sa confiance en soi sans rien faire. Ça permet de rester à un niveau de motivation et de sagesse que tu ne pourras pas apprendre dans les livres. Et tu peux aussi t'offrir le luxe de rassembler plus de 50 ans d'expérience quand tu es avec 2-3 personnes qui ont chacune 15 ans d'expérience. Donc tu peux avoir de l'expérience, de la motivation et de la sagesse que tu ne pourras jamais t'offrir avec n'importe quelle formation, n'importe quel bouquin. Parce que quelqu'un qui est en face de toi, qui a 20 ans d'expérience dans un domaine, ben, il t'offre tout cuit un résumé de ses conclusions de 20 ans d'expérience. C'est aussi de la maturité qui est offerte, qui est gratuite et qui est 100% en confiance, puisque c'est du terrain, c'est pas de la théorie. Alors ça t'apporte aussi un réseau et un mentor, de la publicité, garantie si tu es une personne correcte, professionnelle, rigoureuse dans ton travail, ponctuelle. Donc tu as toutes les qualités d'un professionnel, les autres n'auront qu'à naturellement t'envoyer leurs clients parce qu'ils disent tu cherches un photographe qui est ponctuel, qui respecte ses délais, je t'envoie chez un tel. Tu cherches quelqu'un qui fournit tel type de transport, va chez lui de ma part, il a une très bonne réputation. La réputation, c'est la meilleure carte visite et elle ne se crée qu'au cœur d'un réseau. Alors, le réseau et le mentor, ils peuvent aussi apporter quoi? Des compétences qui sont acquises sur le tas. Donc, quand tu veux te former à quelque chose, tu n'as pas besoin de te bloquer chez toi. Pour apprendre ou faire une formation, ça s'apprend, c'est en fréquentant un ami comptable que je vais apprendre des notions de finance, de comptabilité, des petites astuces, déjà pour mon quotidien. Ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas un comptable. Mais le fait d'avoir des notions et d'être initié à un certain domaine nous permet d'ouvrir notre esprit et de gagner du temps dans notre projet. Le réseau et le mentor, ça t'offre aussi un mastermind. C'est le secret de tous les gens qui réussissent. Un mastermind, c'est ce qu'on appellerait en français un cerveau collectif. Donc c'est pouvoir avoir des gens qui sont donc experts dans leur domaine, professionnels, qu'ils vendent des petits pains au chocolat ou qui vendent des logiciels informatiques, c'est la même chose. Quelqu'un qui est expert dans son domaine, te donne cette consultance gratuite qui coûte très très cher si tu dois le faire via des sites internet ou via une société. Ça te permet aussi d'améliorer ton quotidien. Tu peux avoir un avocat, trouver tout ce qui concerne tes droits du citoyen ou tes droits de consommateur. Tu peux avoir des experts dans ton réseau qui peuvent te donner l'information comme ça en quelques secondes. Donc, c'est vraiment un gain de temps et une rentabilité au niveau de la qualité de l'information. Donc, avoir la meilleure information en un temps record, il n'y a qu'un réseau qui peut t'apporter ça. Parce que le réseau fait le comparatif et fait les recherches pour toi. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, en deuxième étape. En première étape, en fait, ce que ça t'apporterait, le réseau, c'est que quand tu as tes idées, tes super idées de projet, tu n'as personne à qui en parler. Ou en tout cas, on te dit laisse tomber, cherche un salariat, cherche la sécurité, tu as des enfants ou tu vas en avoir. Il faut que tu prennes un crédit, que tu achètes une maison. Donc, voilà, ça c'est le discours classique. Et les gens qui veulent éviter, qui sont allergiques à ce discours classique, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est rentrer dans un réseau. C'est la seule solution pour vous offrir cet environnement positif, cet environnement encourageant et boostant pour pouvoir avoir le moral et être motivé et ensuite passer à l'action et ensuite devenir productif. Donc c'est très très difficile, on dit pas que c'est impossible, c'est très difficile. Imaginez que tu aurais envie de devenir végétarien, mais tu fais partie d'une famille de grands 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 fans de barbecue et de grillades de viande. Voilà, c'est un petit peu ça. Tu pourras jamais demander conseil autour de toi. Tu pourras jamais leur demander comment te développer pour devenir un bon végétarien, comment créer des nouvelles recettes. Ça ne les intéresse pas. Ils trouvent ça ridicule. Ça n'a aucun sens. Il y a aucun plaisir si tu ne manges pas de viande. Voilà, ça c'est un peu l'exemple très basique, mais c'est un petit peu ça. On veut devenir végétarien. Par exemple d'un système, mais on est entouré de gens qui font tout le contraire. Donc ça peut pas marcher. Ça c'est juste mathématique. Et donc ce réseau il vient vous protéger, vous offrir ce casque de sécurité pour pouvoir développer vos idées dans votre tête et pouvoir avancer, pouvoir concilier la vie de famille, les ambitions, les rêves, et trouver des gens qui vont croire en toi et en ton idée, même si elle n'a aucun sens pour eux, mais qui vont respecter en fait ta passion et ton ambition. C'est un petit peu ça. Il n'y a qu'un expert qui peut respecter un expert, et il n'y a qu'un passionné qui pourra respecter un autre passionné, même si pour lui ça n'a aucun sens. Il sait que si ça a du sens pour toi, c'est le principal. Et le fait de t'écouter, de t'encourager, de t'accompagner, peut-être que tu changeras de projet, peut-être que tu développeras celui-là, peut-être que tu le quitteras, mais tu le quitteras avec beaucoup de sérénité et de bien-être parce que c'est toi qui t'es rendu compte que c'était plus pour toi. Et c'est pas quelqu'un qui vient te couper l'herbe sous le pied en te disant ça n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment beaucoup de bien-être, beaucoup de confiance en soi et beaucoup, beaucoup de motivation, productivité et c'est tout bénef. Donc voilà un petit peu les avantages du réseautage. Il y a énormément de groupes, de réseaux professionnels qui existent dans le monde, que ce soit physique ou online. Donc, les gens qui veulent développer leur vie professionnelle, les gens qui veulent évoluer font tous partie d'un réseau, ça c'est sans conteste. C'est la meilleure façon de gagner du temps, de gagner de l'argent et de pas tomber dans les pièges du débutant. Donc voilà un petit peu en gros le networking. Il y a un autre épisode où on parle du networking et du mentoring. Donc, on vous retrouve dans un prochain épisode pour plus d'informations. À très bientôt. C'était Soraya pour MMG. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du networking dans cet épisode. Alors, qu'est-ce que c'est que le networking? En français, appelé réseautage, donc ou réseautage d'affaires. C'est un mot qui peut faire peur, mais en fait, c'est un concept qui est très ancien et qui est aussi vieux que le monde. Donc, nos grand-mères étaient des networkeuses et elles trouvaient tout ce qu'elles voulaient juste via leur contact. Donc, on n'invente rien. Alors, qu'est-ce que c'est que le networking? C'est en fait un ensemble de techniques où tu vas apprendre à tisser des liens de confiance avec des gens, soit que tu connais déjà, soit que tu connais pas encore, avec des membres de ta famille, donc mieux les connaître, des gens avec qui tu travailles ou des gens avec qui tu voudrais travailler. Donc, en fait, c'est une technique, c'est un ensemble de petites astuces qui permettent, en fait, qui te permettront d'être à l'aise, de pouvoir rentrer facilement en contact avec les gens et de pouvoir aisément demander des informations, des contacts, des conseils, des informations. Donc, ça va vraiment te faciliter la vie dans ta vie professionnelle et personnelle. Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que tu vas donc faire du réseautage, pourquoi? Tu cherches des personnes de confiance, des personnes crédibles qui ont une bonne réputation qui sont une référence dans leur domaine, d'accord, pour pouvoir leur demander quelque chose, pour pouvoir avancer dans une partie de ta vie. Deuxième chose les techniques que tu vas apprendre c'est pour pouvoir trouver l'information qui va te permettre d'avancer, d'accord? Donc il y a une façon qui est naturel en fait, hein, qui est naturel, qui s'est perdu aujourd'hui parce que les gens sont très cloisonnés chez eux à cause justement de toute cette communication digitale. Et donc que ce contact naturel et humain s'est perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on doit le réapprendre. Alors qu'à la base c'était quelque chose de naturel pour les gens d'il y a 30, 40 ans. Donc ensuite tu vas pouvoir trouver donc des personnes qui sont donc, comme j'avais dit, des références. Tu vas pouvoir trouver l'information que tu cherches. Et ensuite, tu vas apprendre aussi à être un maillon de la chaîne. Donc, tu vas apprendre à recevoir une information, un contact, et tu vas apprendre aussi à la rendre. Donc, c'est aussi une chaîne qui donne et qui reçoit, qui donne et qui reçoit. Plus tu recevras et plus tu auras aussi, toi, envie de donner ou d'aider. Donc, c'est quelque chose qui est... c'est un cercle vertueux. C'est une chaîne d'entraide qui ne se limite pas. Alors, la meilleure façon d'expliquer ça, c'est peut-être de raconter une petite histoire. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme, en fait, qui était étudiant et qui travaillait dans un restaurant. qui était située pas loin d'une usine. Donc le directeur de l'usine venait déjeuner en fait chaque dimanche midi, c'était son jour de congé. Et cet étudiant, en fait, par la force des choses, s'est lié d'amitié avec ce client, voilà, qui était directeur d'entreprise, et il lui servait son plat préféré chaque dimanche. Donc tu t'en doutes qu'après plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ces deux personnes se sont liées d'amitié, ces deux personnes qui pourtant n'avaient aucune chance de se rencontrer. Un étudiant en marketing et un grand patron d'entreprise. Les mois ont passé et une offre d'emploi de cette usine est parue dans un journal. Et l'entreprise en fait qui cherchait un responsable marketing était cette usine en l'occurrence. L'étudiant a vu cette annonce et il a pris quelques temps pour réfléchir. Puis il s'est dit, tiens, comment je pourrais arriver à mon objectif et trouver l'information dont j'ai besoin. Ah, comme chaque dimanche, ce qu'il a fait, c'est que le directeur d'usine est venu déjeuner avec son épouse et l'étudiant, là, voilà, il a mis son petit scénario en marche. Il a salué le directeur, il a dit « Ah, bon, bonjour Daniel, j'espère que tu vas bien, voilà ton plat, comme d'habitude, bon appétit ». Ils sont vraiment déjà arrivés à un lien d'amitié où ils se tutoyaient, donc ça c'est une occasion, une opportunité qui facilite énormément la communication. L'étudiant ajoute ensuite, bah écoute Daniel, j'ai vu l'annonce dans le journal pour le poste de responsable marketing et voilà, je suis intéressé. Et le directeur lui répond, oui en effet, on est à la recherche d'un responsable marketing. L'étudiant lui dit alors, bah tu sais pas, mais en fait moi j'ai étudié le marketing, hein, je suis diplômé en marketing. Le directeur étonné lui répond, ah ben c'est super, c'est excellent, mais ne va pas plus loin. L'étudiant reprend son courage à deux mains et lui dit « Écoute, j'aimerais vraiment postuler pour cette annonce, qu'est-ce que je dois faire ?» Et le directeur lui dit « Écoute, avec plaisir, tu peux postuler, mais sans ajouter d'informations particulières ou de facilité. » L'étudiant avait l'ambition et il savait qu'il avait cet avantage-là de disponible pour lui d'être devant ce directeur et il lui dit « Écoute, il se lance, il prend son courage à deux mains, il dit « Écoute Daniel, permets-moi de te faire une offre. » Le directeur est un petit peu étonné, lui répond « Oui, je t'écoute ». L'étudiant lui répond alors « Écoute, je connais mes compétences et je sais que j'aime ce domaine. Je te propose de me recruter pendant un mois gratuitement pour évaluer mes compétences. Et si mon profil et mon travail te plaît, tu m'engages. Qu'est-ce que tu en penses ? Et tu n'as rien à perdre. » Et là, il y a un silence total qui s'installe parce que tout simplement, le directeur déjà était impressionné par le courage et l'audace de ce jeune homme qui a osé parler au directeur de l'usine. Qu'est-ce que cet étudiant va faire ? Qu'est-ce qu'il va continuer à penser pour pouvoir aller au bout de sa mission ? Le directeur regarde sa femme et il lui dit « Chérie, qu'est-ce que tu en penses ?» Et le directeur, étonné, attend la réponse de sa femme et elle lui dit, elle regarde l'étudiant, elle regarde le directeur, elle lui dit, chiche, pourquoi pas. Et voilà comment ça a commencé, l'histoire de ce jeune homme qui a été engagé, puis il a été en fait recruté définitivement dans cette entreprise. Comme il l'avait promis, il était très compétent et sa carrière a été lancée par une histoire de rencontre. C'est une histoire de réseautage. Il a été un serveur serviable, poli, professionnel, honnête pendant plusieurs mois dans ce restaurant et ça lui a permis de gagner la confiance de ce directeur en lui disant voilà l'offre que je me permets de te faire. Donc c'est vraiment ce lien qui a fait que le directeur avait confiance dans cet étudiant, c'est ce lien qui a fait que l'étudiant a osé parler au directeur et c'est ce lien qui a fait que le directeur était pratiquement convaincu qu'il n'avait rien à perdre parce qu'il connaissait le serveur depuis plusieurs mois et qu'il avait déjà un petit peu mesuré le professionnalisme de ce jeune étudiant. Et cette histoire est vraiment là pour confirmer que ce qui se passe grâce au réseautage, grâce au networking, ce sont des rencontres que tu ne feras jamais, jamais, jamais dans un circuit classique. C'est vraiment ça l'avantage, c'est de rencontrer des personnes que tu rêverais de rencontrer, que tu rêverais de consulter, que tu n'auras pas l'occasion de faire via le circuit classique ou via une demande officielle. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Les avantages du réseautage sont 100% bénéfices. On gagne du temps, on gagne de l'expérience, de la sagesse, de la motivation et du consulting gratuit. Voilà pour le networking. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain épisode. C'était Soraya pour MMG. Pourquoi ? Née en Europe, l'envie de faire quelque chose de ma vie ne m'a jamais quittée. J'ai souvent voulu quitter mon boulot, ma ville, mon pays, pour me réaliser loin de là, où tout est possible. Où, quand, comment, impossible à imaginer, seul ou pas seul. Comment expliquer ça à papa et maman? Pourtant, il y a tout ici pour être heureux. Je n'ai rien à envier à personne. Alors comment justifier l'envie du changement, de l'inconfort, de l'insécurité, comme ils disent? J'avais envie de projets, de carrière, de nouveau et d'impossible. Là où on peut encore tout essayer, voilà ce qui me donne envie. Après plusieurs années de négociations avec moi-même, je m'offre le droit de sauter le pas, le premier pas qu'il fallait faire. Ou peut-être pas. Et donc, alors l'envie fut vraiment de parler d'entrepreneuriat, de projet, de peur, d'hésitation, d'environnement favorable à ma réussite. Tout ce qui concerne l'aventure qu'on a tous envie de faire. Chaque histoire a un message, chaque histoire a une morale. Et comme l'ont dit les plus grands leaders, on ne peut pas donner la recette exacte de la réussite. Mais on peut déjà vous dire ce qui ne donne pas de résultat. Et comme tout le monde, je n'ai pas écouté les conseils gratuits. J'ai préféré payer de mon temps, de mon énergie et de mon argent pour comprendre qu'il y a des recettes ratées, connues et reconnues. En espérant donc vous faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, et vous proposer un maximum de raccourcis vers ce que vous voulez faire de votre vie. Notre objectif est de mettre en lumière les plus d'une vie réussie, les moins de pouvoir avancer, et les compétences de chacun d'entre vous qui a eu une histoire, un parcours, mais qui au final y est arrivé. Mon père, ma bataille. Salut, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, l'été approche, tu sais, pas mal de nouveautés de mon côté. Bah, tu sais, dans 15 jours, on va aller voir mon père. On va passer un mois avec lui. Et je stresse beaucoup, parce qu'en fait, je le connais pas vraiment. Je le vois qu'un mois, une année sur deux, tu imagines. J'ai un peu mal au ventre. J'ai toujours eu le sentiment que ma mère m'a eu toute seule. J'ai grandi avec elle. Je suis tellement habituée à elle, jour après jour depuis ma naissance, que j'en oublie d'où je viens, à l'origine. Pourtant, c'est mon vrai départ, lui. En plus, quand je suis chez mon père, tout le monde me dit que je suis bien la fille de ma mère. Et ça arrange pas vraiment les choses. Tu sais, on prend la route pour environ 3 jours. On va traverser 3 pays. On va retraverser ces autoroutes. Aussi chaude que déserte. Et toujours notre ami le taureau noir. Tu sais, on l'appelle le taureau aveugle. En fait, c'est parce qu'il y a une représentation de ce taureau en noir et il n'y a pas de yeux. Donc, c'est une ombre noire. Mais c'est un souvenir qu'on n'oublie pas. Tu sais, en plus, pour pas arranger les choses, ma mère, elle me parle jamais de mon père. Comme s'il ne se connaissait pas. Mon père, pourtant, il reconnaît bien la valeur de ma mère et puis tout le travail d'éducation qu'elle a fait sur mes frères et moi. D'ailleurs, mon père, il faut l'avouer que c'est grâce à son humilité et son admiration pour ma mère qu'il nous a laissé vivre avec elle. J'ai honte, hein, parce que j'ai pas vraiment envie de mieux connaître mon père. Je me sens si différente de lui que je me suis jamais vraiment posé la question si on avait des choses en commun. Je me dis chaque fois, allez, courage, tu vas le voir un mois, une année sur deux, c'est pas beaucoup, tu peux tenir le coup. Puis je me rassure en me disant que je vais jamais aller vivre chez lui de toute façon. S'il nous a laissé partir vivre chez ma mère, c'est que c'est mieux comme ça. Alors pourquoi ça changerait un jour? Tu sais, on parle même pas la même langue. J'ai souvent l'impression d'être une extraterrestre. Je parle alors presque pas et j'ose même pas demander ce que je veux quand je suis là-bas. Je maigris à vue d'œil, c'est incroyable. Et avec les cousins que je rencontre sur place, c'est pas mieux. Hein. Chacun parle sa langue maternelle, donc les jeux avec eux, c'est limite le langage des signes, à mourir de rire. Mes tantes paternelles, elles me regardent comme si elle voulait me manger. En fait, elle ne serait pas contre une jolie promesse de mariage avec un de leurs fils. Oui, parce qu'elle aussi, elle reconnaisse la bonne éducation que nous a donnée notre mère. Mais c'est fou comme j'ai ce sentiment de peur et d'angoisse. Il y a trop de barrières avec mon père. Puis il n'y a qu'à faire des efforts pour nous comprendre, c'est tout. Moi, j'ai une mentalité et une vie déjà claire dans ma tête. Puis malgré le temps passé ensemble, finalement, je ne le connais pas mieux le dernier jour que le premier jour de mon arrivée. Mais bizarrement, le dernier jour des vacances, je finis chaque fois un petit pincement au cœur et le visage en larmes, dans les bras de ma mère. Parce qu'en fait, mon père, on ne va quand même pas le revoir et pourtant, il va me manquer. C'est fou quand même. On ne se connaissait pas bien, toi et moi, mais là, je crois que tu en sais un peu plus sur moi chaque jour. Puis, les années ne suffiront pas pour qu'on se connaisse parfaitement. Mais ça fait plaisir que je t'ai parlé un petit peu de mon père et de ma mère. Mais en fait, je t'ai pas dit comment ils s'appelaient. Ma mère, en fait, c'est l'Europe. Et mon père, c'est le Maroc. Ma mère, ma force tranquille. Ce matin, j'ai eu un exposé sur le Maroc que je devais préparer depuis quelques mois. Et finalement, j'ai tout préparé au dernier moment. On est les champions de la dernière minute. Je ne sais pas pourquoi ça nous met dans un état d'excitation de travailler toujours dans la panique et le stress. Ça finit toujours bien, heureusement. J'ai choisi ce sujet pour épater mes copains de classe. Je pensais que je prendrais le temps de bien préparer le sujet. Puis maintenant, j'ai laissé tomber. Ça va être juste Marrakech, capitale Rabat et quelques paysages des paysans. Voilà, je vais faire simple, j'ai pas le temps. Ma mère, elle m'a aidé à faire les recherches, elle a beaucoup prié pour moi. Oui, en fait, c'est un peu sa façon de m'aider, ça a souvent marché. Car moi, j'ai jamais eu besoin d'aller à Lourdes pour voir des miracles. J'en ai vécu dans ma classe avec mes professeurs. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment paniqué. J'ai appelé à l'aide toute la famille. J'ai demandé, même à mon père, à mes frères et à ma grand-mère, de beaucoup prier pour qu'une catastrophe naturelle arrive le jour de la présentation. Ah, j'étais vraiment pas prête. Les détails, c'est jamais important quand on fait une prière, mais c'est toute la différence. On ne peut pas prier pour que le professeur s'absente, parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il était très solide comme un roc. Et en plus, la dernière fois, les prières ont marché. Il est vraiment tombé malade, mais il est venu. Donc on aurait dû être plus précis dans nos prières. Bah oui, on n'avait pas été assez précis dans nos demandes, donc maintenant on va opter pour une catastrophe naturelle ou une grève générale des transports, quelque chose de gros quoi. Donc je vais faire intervenir toute ma famille pour prier. Vive le travail d'équipe. Bon, maintenant que la présentation a été faite, ce matin j'ai eu un examen et le professeur croyait que je trichais. J'ai paniqué. Puis quand il m'a interpellée à la fin de l'examen pour me dire qu'il avait des doutes, je lui ai dit que j'étais trop triste. En fait, j'ai paniqué, je ne savais pas quoi dire. Et la seule excuse qui m'est venue en tête de suffisamment grave, je lui ai dit, écoutez, ma mère est très malade et je crois avoir entendu dire qu'elle avait un cancer et personne n'a voulu me le dire à la maison parce qu'en fait, je suis en examen. Et là, le professeur, il était directement, en quelques secondes, super triste pour moi. Il m'a dit qu'il oubliait l'incident. J'ai appelé ma mère en catastrophe en lui disant en fait que j'avais annoncé qu'elle avait un cancer et que donc elle était libre le 30 juin, c'était plus la peine qu'elle vienne avec moi à la remise des diplômes. Là ma mère elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, la pauvre. Elle s'est énervée puis elle m'a dit qu'elle détestait mentir. Elle me dit donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on m'appelle je dois faire la mourante au téléphone pour te sauver la vie? J'ai dit oui maman, pardon, je t'aime, à ce soir. Ouais. Youssef, bonjour.
Bonjour Soraya.
J'espère que tu vas bien.
Très bien, et toi?
Ça va, merci beaucoup. Alors, tu vas partager avec nous ton expérience de l'Afrique, si tu veux bien. Je sais que tu as passé pas mal d'années là-bas et j'aimerais que tu partages avec nous ce que tu as découvert. Alors d'abord, tu es né en Belgique.
Non, je suis né au Maroc.
T'es né au Maroc.
Voilà, c'est comme si je suis belge.
Bon, tu es belge, voilà, t'as passé toute ta vie en Belgique et t'as travaillé 20 ans comme un gentil salarié à l'usine.
Voilà, chez Mitsubishi, j'ai travaillé pendant 20 ans.
D'accord.
Puis je suis parti avec un ami au Bénin. Je voulais voir ce que c'était l'Afrique. J'ai aimé, puis après Bénin, j'ai été au Togo. Togo, j'ai été au Ghana. Puis après, je suis revenu ici, puis je suis retourné au Bénin. Puis après, je suis parti voir, parce que je me suis lancé dans l'or. Et puis j'ai atterri à, comment ça s'appelle, au Congo. Et là, je suis resté plus que 9 mois quand même. Je suis resté 9 mois et tout le reste, c'est par épisode. Des 3 mois.
Tu partais et tu venais, c'est ça?
Oui, je partais et je venais. Au début, au Congo. Mais après, à la fin, je suis resté 9 mois d'affilée.
D'accord.
Travailler là-bas, dans les mines. Comme je suis mécanicien, j'ai travaillé beaucoup dans tout ce qui est gros appareils, dans les dragues. Et puis après, j'ai commencé à gérer des gens, puis j'ai commencé à gérer l'or pour les investisseurs. Puis voilà. Puis après, je suis revenu ici.
Attends, on n'a pas fini. Laisse-nous au soleil.
Après 9 mois.
Donc attends, le Bénin, t'as fait un peu d'or. Ensuite, t'as bougé, t'es parti vers le Congo. Ok. Et alors, qu'est-ce que t'as vu là-bas qui avait à faire?
Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tout ce qui est nourriture, déjà, premièrement. Mm-hmm. Tout ce qui est, par exemple, là, tout ce qui est bouillon de poulet, bouillon de viande, l'ail, l'oignon, les pâtes, les riz. Beaucoup, beaucoup. Les boissons.
Donc à importer, enfin à exporter à partir d'ici, tu veux dire.
Voilà, c'est ça, exporter ou même fabriquer là-bas. Il y a beaucoup de gens, enfin par exemple les Grecs font du pain là-bas. Je ne l'avais pas dit là tout à l'heure, mais les Grecs font beaucoup de pain là-bas.
Donc il y a des Grecs en Afrique.
Oui.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend alors, non.
Les Grecs, et eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est pain, beurre. Alors, par exemple, les Italiens, c'est beaucoup dans les bâtiments. Mm-hmm. Les Marocains sont beaucoup dans les boîtes de sardines, tout ce qui est poisson, import-export. Et qui travaillent dans le phosphate aussi, avec le Maroc.
Oui, suite à la... Enfin, le Maroc, c'est un des plus grands producteurs de phosphate au monde avec le...
Avec le Congo, ils font ça. Et par exemple, les Libanais, c'est beaucoup dans les mines.
Donc c'est déjà très cosmopolite, quoi. Donc t'es pas vraiment dépaysé quand tu vas là-bas.
Non, pas du tout. Non, t'es pas dépaysé. Et les Belges, eux, ils ont de tout. Ils sont dans les bâtiments. Ils sont comme les gens de bricot. Ils font, les boîtes de nuit, là, et tout.
Ouais.
Et tout ce qui est petit magasin.
D'accord.
Ils font un peu de tout, là-bas, les Belges. Et ils ont beaucoup de contrats, tu vois, des routes.
Construction de route,
par exemple des transports de camions aussi. Mm-hmm. Voilà, c'est ce qu'ils font. Les Belges, il y a beaucoup, quand même pas mal de Belges là.
D'accord. Mais en fait, avec l'image que tu me donnes là, ça fait encore moins peur parce qu'en fait, s'il y a des Grecs, des Libanais, des Marocains, des Belges, donc finalement, on est vraiment dans une ville comme, je sais pas, Paris ou Bruxelles, quoi. Il y a de tout en fait. On n'est pas dépaysé.
Non, pas du tout. On n'est pas dépaysé du tout. Moi, par exemple, quand je parle avec eux, ils disent qu'ils n'ont même plus envie de plus jamais revenir ici. En Belgique.
Je comprends.
Ouais, la vie là-bas est tout à fait différente qu'ici.
D'accord, alors la crainte qu'on pourrait avoir, c'est au niveau de la qualité de vie. Oui, il y a le soleil, il y a la liberté, il y a le temps, mais au niveau du, de la modernité, est-ce qu'on a tout ce qu'on pourrait avoir ou tout ce qu'on aurait envie d'avoir pour vivre un minimum comme les gens ont l'habitude de vivre ici en Europe? Ou bien, parce que s'il y a des Belges qui s'habituent, des Grecs et tout, c'est que ça se passe bien, quoi.
Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, sauf que là, en plus, ce qu'on a, c'est on a un chauffeur, on a une femme qui nettoie la maison, qui fait la vaisselle, qui fait à manger, qui fait tout. Nous, on fait rien. On travaille, c'est tout.
Heureusement que j'ai pas mon passeport dans la poche. Je serais parti directement à l'aéroport. Ben, ça donne envie tout ça. Alors, parmi les pays que tu as visités, est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot sur chacun d'eux? Enfin, on va dire ce qui t'a plu dans chacun des pays. Voilà.
Mais, tout m'a plu. C'est surtout le Congo qui m'a plu, la Tanzanie et l'Éthiopie. En fait, par exemple, le Congo, il y a beaucoup de choses à faire et les gens sont très ouverts et sont très sympas. Ça, j'adore le Congo. Tanzanie aussi, c'est pareil. Comme par exemple, j'ai rencontré un Marocain qui est là, qui a ouvert une toute petite boulangerie et puis après, il a agrandi. Il a en Tanzanie. Et je veux dire, comment ça. Par exemple, comme le Bénin, Togo, le Ghana, c'est un peu plus difficile. C'est tout. Les gens sont tout à fait différents que le Congo et la Tanzanie.
Donc, s'il y avait un pays à choisir, on va dire pour un Européen, on va dire pour quelqu'un qui a grandi d'abord en Europe et qui voudrait faire un premier pas vers l'Afrique, parce que par exemple, le cas du Maroc, bah, les gens vont d'abord à Casablanca, parce que c'est la ville un petit peu la plus européenne, oui. Donc il n'y a pas trop de choc, et puis seulement ils osent aller vers d'autres villes moins européennes. Donc, si on devait choisir un pays en Afrique pour diminuer le choc, ce serait lequel?
Bon, je préfère le Congo. Congo, parce que. Quand même pas mal de choses à faire. Dès que vous arrivez, il y a quelque chose à faire.
D'accord.
On perd pas notre temps là.
Et en plus, tu m'as dit qu'il fallait pas, qu'il fallait rien inventer, quoi. Tu m'as parlé de pain, de viande, de poulet, de farine, enfin des choses très très basiques, quoi.
En fait, par exemple, ce qu'il faut rechercher là-bas, c'est les gens qui font, comment dire, l'élevage de poulet.
Ok.
Les vaches de poulet, ça, il y en a pas beaucoup, il y en a pas assez, il y a pas assez de poulet. Ça vient de Brésil et puis ça vient d'autres pays encore qui sont congelés et qui sont pourris aussi, sont pas tellement.
Oui, il y a pas aussi beaucoup de concurrence, donc beaucoup de monopoles, je suppose, pour l'instant en tout cas. Ok. Et alors, si tu devais donner un conseil à un jeune entrepreneur qui voudrait se lancer en Afrique, voilà, qui voudrait partir. Pas à l'aveuglette, justement, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, qu'il faut quand même beaucoup préparer son expatriation. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de préparation? Parce que le plus compliqué, je pense, c'est de se préparer et puis de partir. Une fois qu'on est sur place, après, ben, on compte sur sa bonne étoile.
Moi, je conseillerais d'abord aller voir de ses yeux, de lui-même, si déjà ça lui plaît à lui, à la personne, et un peu visiter, un peu voir les gens, de rencontrer des gens, parler un peu à gauche, à droite, regarder, et faire son métier, chacun son métier, et faire ce qu'il a envie de faire.
Ah oui, en fait, c'est vrai que c'est encore plus simple ce que tu dis. Donc, en fait, le métier qu'on pratique ici, il suffit de l'exporter, puisque dans tous les cas, il n'existe pas, ou en tout cas, il n'est pas suffisant.
Oui, tout simplement.
Ça paraît très simple.
C'est très simple. C'est très simple. J'ai rencontré une dame aussi qui a ouvert vraiment. Elle a ouvert une librairie qui vend des livres, des cahiers, des bics, un peu de tout. Et à côté, justement, un truc d'internet, là, comment ça s'appelle, un genre de cybercafé.
Un petit cybercafé.
Voilà, un petit cybercafé, une petite librairie. Mais elle vit avec ça, elle est très bien. Elle est très bien avec ça.
Oui, on est vite bien là-bas, en fait, parce qu'il y a aussi la qualité de vie. Donc, en fait, à partir du moment où on a de quoi vivre, on cherche plus en fait, à s'évader aussi. Hein. Donc, il y a un stress énorme qui diminue, on n'a plus envie de fuir, on n'a plus envie de s'évader, et on n'a plus envie de partir en vacances. Je ne sais pas si tu as eu ce sentiment, toi, quand tu étais là-bas, tu n'as plus ce besoin de partir en vacances, puisque tu as l'impression d'être en vacances.
Mais tu es en vacances là-bas, en même temps le travail. Tu travailles, et puis le soir, tu as envie de sortir, tu sors, parce que tu as quand même quelqu'un à la maison qui travaille aussi. Ben voilà, t'étais en vacances, en travaillant.
Et alors, le moment le plus dur, ça a été de rentrer, je pense.
Oui.
Et comme tous les gens qui ont dû rentrer, en fait, je crois que c'était un cas de force majeure, comme tout le monde. Hein. Personne n'est rentré, je pense, avec plaisir, c'est ça?
Non, pas avec plaisir, non. On n'a pas du tout. Ça, c'était le coup dur, ça.
Et comment tu survis? En fait, ouais, comment tu le vis au quotidien? Qu'est-ce que tu te dis pour pouvoir... Ouais, parce que tu as quand même coupé quoi, finalement avec l'Afrique, alors que tu as vécu là-bas quelques années.
Oui, on souffre en silence. Hein. Heureusement qu'il y a madame qui me fait sortir pendant le week-end, qu'on sort parfois, qu'on part, et parfois on part en vacances, on essaie de casser.
Moi, je viens un peu te déprimer, les petits week-ends en Belgique, c'est pas une journée dans la jungle.
Non, mais là, c'est d'en trouver la jungle. J'essaie d'en trouver, par exemple, ouais. Tu vas dans les Ardennes et puis tu fais semblant.
Ouais, voilà, tu fais semblant, exactement, tu fais semblant. Donc, est-ce que tu voudrais, tu serais prêt, si tu devais repartir, tu choisirais quel pays, quel projet, si c'était possible, si j'avais une baguette magique?
Si c'est possible, je pourrais partir dans l'heure, Et si ce sera au Congo.
T'es un grand amoureux du Congo, toi. Ouais. C'est nos auditeurs congolais qui vont être contents.
Moi, j'adore le Congo. Ils sont sympas, ça va. Mais c'est...
Lubumbashi.
Il y a Lubumbashi. J'étais Lubumbashi. J'étais au... Comment ça s'appelle encore Kisangani. Mmh. Voilà. J'étais à Kisangani. Et Kinshasa. Kinshasa, je ne serais pas resté longtemps parce que c'était... C'est beaucoup de monde, là.
Beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde. C'est chouette, ça va, c'est une chouette ville, là, et tout. J'ai rencontré pas mal de beaux mondes, là, justement. Et je ne veux pas dire de nom, j'ai rencontré des grandes personnalités là-bas, mm-hmm. qui font partie de la présidence, enfin, de quelques ministres d'ici. Mm-hmm. Ils ont ouvert quelques trucs là-bas aussi. Je ne vais pas commencer à raconter, parce que je crois qu'il y a quelques congolais qui m'attendent, ils le savent déjà.
Ok, mais bon, ça veut juste dire, on va prendre le côté positif, que les gens qui sont malins ont compris qu'il faut faire des choses là-bas, qu'il faut pas se limiter à ici. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vivent entre les deux. C'est vrai que ça aussi, c'est une formule potentielle. Hein. On n'est pas obligé de partir complètement, on peut commencer par faire des allers-retours.
Oui, on peut faire des allers-retours, tout simplement. On peut faire des allers-retours... Faut voir, c'est chacun sa personnalité, chacun son tempérament. Il y en a qui peuvent rester peut-être 2-3 mois. Ou...
Il faut oser en fait partir. Et.
Faut oser, il y en a qui n'osent pas, il y en a qui osent.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ont osé, il n'y a personne qui l'a regretté.
Non, il n'y a personne qui l'a regretté, ça non, pas du tout.
Et c'est vraiment, je vais remuer le couteau dans la plaie, mais tous ceux qui sont partis, même quand ils ont eu une mauvaise expérience, ou ça s'est mal terminé, faillite, ou je sais pas, arnaque d'associés ou partenaires, ils sont quand même contents et disent, si c'était à refaire, je le referais. Ça, c'est quand même magique. Hein.
Non, il y en a plusieurs qui ont eu ce coup-là. Mais après, ils ont retourné, mais ils ont fait ça autrement. Mm-hmm. Après, ils ont fait autre chose. Mm-hmm. Par exemple, je connais un Belge, ouais, qui est parti, il est revenu ici. Il est reparti, maintenant il s'est lancé dans tout ce qui est dans le forestier, dans tout ce qui est bois.
D'accord.
Voilà.
Donc des trucs très très, on va dire, basiques, quoi. Ouais. On n'a pas besoin d'inventer des choses, quoi. On est loin du digital ou inventer des applications, des choses comme ça. Il y a encore des choses très simples qui doivent, oui. doivent exister, quoi.
Oui, des choses très très simples et faciles.
Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Tu nous as bien vendu le Congo, bien vendu l'Afrique. Donc tu nous as donné un conseil pour les jeunes. Tu nous as dit de partir quelques jours et de préparer. Et s'il y a un domaine tu m'as dit c'était la nourriture, c'est ça?
C'est beaucoup la nourriture, énormément, beaucoup.
Et c'est peut-être aussi le plus simple pour démarrer?
C'est plus simple pour démarrer aussi. Par exemple, comme l'ail, les oignons, c'est des petites choses mais qui rapportent. Mmh. Et par exemple, le bouillon... les riz, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre, pâtes, ça ils aiment bien les pâtes, mm-hmm. tout ce qui est pas cher, ouais. Et bon.
Oui, les besoins aussi, les produits de première consommation finalement, c'est...
Oui, voilà, okay. Tout ce qui est petite consommation, c'est surtout l'ail et l'oignon, d'accord. qui part très 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 vite.
Okay. Bah écoute, ça fait rêver tout ça, hein. Le soleil, nous on va imaginer qu'on a du soleil aussi autour de nous. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations et on va essayer de te réinviter, ça te dérange pas, pour rencontrer tous nos membres du réseau pour pouvoir encore leur partager plein d'informations, parce que comme c'est loin et qu'il y a beaucoup qui rêvent mais qui n'ont pas l'information. Et en fait, le fait que toi tu sois parti, tu facilites beaucoup les choses, parce qu'on se rend compte en fait que c'est pas si compliqué, ça fait pas si peur, et qu'au final, on vit plus sur la peur que sur oser, parce que comme on a dit, ceux qui osent n'ont pas regretté, quoi. Bah merci beaucoup Youssef.
Ouais, pas de problème, la prochaine fois j'espère qu'on se reverra.
Si tu n'es pas parti, oui, juste on se reverra. Un grand grand merci pour cette petite demi-heure et à très bientôt.
Avec plaisir. Allez, merci. À bientôt, merci, au revoir.
Merci. Bonjour à tous, l'épisode de MMG aujourd'hui, on va parler de moi et mes envies d'expatriation. Que vous ayez envie de déménager dans la ville d'à côté ou carrément changer de pays, ça reste une expatriation, un changement complet. Alors c'est un grand projet, parce qu'on change tout, on déménage tout, physiquement mais aussi moralement. Tout ce qui a été installé depuis votre naissance. Et donc là, on vient se confronter à notre plus grand ennemi, qui est la sécurité. Tout ce qui a été installé, tout ce qui a été sécurisant, et sécurisé depuis notre naissance, on désire le déplacer. Donc c'est ça qui fait face à la plus grande peur des gens qui voudraient changer de ville ou de pays. Alors l'expatriation, donc les gens qui changent vraiment de pays complètement, il faut vraiment comprendre que c'est tout un processus. Alors, excepté le fait, quand c'est le boulot qui envoie l'un des deux conjoints, ça se fait très vite. Parfois, entre l'annonce de l'expatriation et le déménagement, il y a maximum 2 mois. Parfois, ça peut être plus rapide. Et le résultat, selon notre expérience, c'est que ce qui arrive souvent, c'est que l'autre conjoint qui a suivi, donc qui a démissionné et qui suit son conjoint qui est envoyé en mission, peut très rapidement se retrouver très déçu et très malheureux dans cette nouvelle vie. Pourquoi ? Bah parce qu'il n'a pas eu le temps de se préparer, il n'a pas eu le temps de s'installer, de s'intégrer et de se créer un réseau de contacts ou de trouver un boulot. Alors, moi-même, mon expérience a débuté il y a plus de 15 ans. Donc, mon processus d'expatriation a démarré en 2005 et je suis partie de la Belgique vers le Maroc en 2008. Donc, 3 années de préparation psychologique via les réseaux sociaux, mais ça se fait vraiment naturellement pendant qu'on a notre job. On prépare, on se renseigne. Et puis sur place, moi j'ai rencontré énormément d'expatriés et c'est un sentiment qui est tout à fait naturel car il est très rassurant au début de rencontrer des gens qui sont comme nous. Donc nous, ce qu'on veut apporter ici chez MMG, c'est vraiment de faire comprendre à ces personnes qui le savent d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles viennent vers nous, que l'étape de l'expatriation, ce n'est pas justement qu'une seule step, c'est tout un processus, c'est vraiment comme un métier. On fait tout un stage, on se prépare et puis on passe à la pratique. Et cette préparation mentale est très importante parce que c'est elle qui assure la réussite sur place. Se préparer, en discuter, prévoir, parfois ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure par jour, mais le fait de le faire comme ça pendant quelques mois, parfois quelques années, puisqu'on ne sait jamais quand on s'expatrie réellement, ça permet vraiment de s'installer et d'y être déjà. Parce qu'une fois qu'on est déjà parti dans notre tête, ce qui se passe, c'est que le jour où on arrive sur place, ben, il n'y a rien de nouveau, parce qu'on a beaucoup suivi. Puis aujourd'hui, on peut vraiment vivre par procuration via les réseaux sociaux, donc on peut déjà vivre toute l'ambiance du pays qu'on choisit. Donc, moi, personnellement, avec mon expérience de 15 années de mindset, d'état d'esprit d'expatrié et les milliers et milliers de personnes que j'ai rencontrées, je me suis rendu compte vraiment que les obstacles étaient les mêmes, que les secrets de réussite étaient les mêmes, qu'il y avait vraiment des trames qui nous réunissaient et il y avait vraiment des lignes de conduite à adopter pour pouvoir réussir ce process. Donc nous, on veut vraiment proposer cet accompagnement dans le réseau MMG. C'est d'accompagner ces gens, de les aider à se poser les bonnes questions et à se préparer en douceur pour pouvoir vraiment réussir leur installation et puis surtout, le plus important, passer à l'action et partir. Voilà pour cet épisode. À très bientôt pour MMG. Bye bye.